À tous. Alors notre union d'église, les deux années écoulées, a parlé de la notion de disciple. Et le thème exact, c'était être disciple de Christ partout et tout le temps. Et je me suis aperçu que nous, en 2021 et 2022, on n'avait pas beaucoup parlé de la notion de disciple. Georges l'a mentionné dans sa prière il y a juste quelques minutes. Alors, pour nous rattraper, enfin pas seulement pour nous rattraper, mais parce que la notion de disciple est importante, je me disais qu'on allait en parler ce matin. Et je vous proposais le tout début d'une vie de disciple, le choix des disciples par Jésus dans l'évangile de Jean. Au chapitre 1. Le lendemain, Jean était de nouveau là avec deux de ses disciples. Il vit Jésus qui passait et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'il les suivait et leur demanda « Que cherchez-vous ?»« Rabbi, c'est-à-dire maître, lui dirent-ils, où habites-tu ? » ?»« Venez, leur répondit-il, et vous le verrez. » Ils l'accompagnèrent donc et virent où il habitait. Il était environ 4 heures de l'après-midi. Ils passèrent le reste de la journée avec lui. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces deux hommes qui, sur la déclaration des gens, s'était mis à suivre Jésus. Il alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui se traduit par Christ. Et il le conduisit auprès de Jésus. Jésus le regarda attentivement et lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas, eh bien, on t'appellera Céphas ». Ce qui veut dire Pierre. Le lendemain, Jésus décida de retourner en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. »« De Nazareth ?» répondit Nathanaël. « Que peut-il venir de bon de Nazareth ?» « Viens et vois, toi-même, » répondit Philippe. Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui, alors il dit « Voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. D'où me connais-tu ? » lui demanda Nathanaël. « Avant même que Philippe t'appelle, » lui répondit Jésus, « lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Maître, » s'écria Nathanaël, « tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Et un peu plus loin, dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 15, c'est Jésus qui parle « Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit et que ce fruit soit durable. » Alors on pourrait appliquer cette phrase de Shakespeare pour la notion de disciple, « to be or not to be », être ou ne pas être un disciple, telle est la question. Et c'est une question qui en pose beaucoup d'autres. Être un disciple, est-ce que chrétien, ça ne suffit pas ? Est-ce qu'il faut aussi être un disciple ? Être un disciple, est-ce que c'est pertinent encore pour nous aujourd'hui, hommes et femmes du 21e siècle ? Beaucoup de questions par rapport à cette notion de disciple. Et moi, je vous propose ce matin de revenir simplement à l'Écriture et voir ensemble ce que Jésus entendait par ce mot disciple et ce qu'il en disait à ses disciples lui-même. Alors, on n'a pas dans la Bible un profil type de disciple, du disciple. Voilà, le disciple, c'est quelqu'un qui fait ceci, 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 cela. C'est pas le genre de la parole de Dieu, les listes comme ça. Mais nous avons des récits comme celui-là qui mettent en scène des disciples et celui-là qui nous parle donc du choix des disciples. Alors, c'est vrai que quand on parle du choix des disciples, on pense tout de suite à Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui sont dans une barque et Jésus les appelle. On pense à André et Simon-Pierre qui sont en train de réparer leur filet et que Jésus appelle, ou à Matthieu, le péager, etc. Mais l'évangile de Jean nous présente une autre scène. On ne voit personne dans une barque, mais le récit met en scène des disciples de Jean-Baptiste qui entendent une déclaration de leur maître, c'est-à-dire Jean-Baptiste, qui dit en désignant Jésus « Voici l'agneau de Dieu ». Et les deux disciples, en entendant cette déclaration formidable, se mettent à suivre un autre maître, ce Jésus de Nazareth. Ils se mettent à suivre Jésus. Et on peut être peut-être surpris par la différence entre le récit de Jean et le récit de Matthieu, Marc, Luc, les trois autres évangiles. Mais plutôt que d'essayer de faire concorder les choses, on peut simplement admettre que Jésus est formé de manière progressive et par étapes successives son groupe de disciples. On voit d'ailleurs qu'au début, Jésus est suivi par une grande multitude de disciples, un nombre assez important, et que parmi ses disciples, il en choisit 12. Et dans Jean 1, on en voit 5, que je cite, hein, Simon-Pierre, André, Philippe et Nathanaël. Alors on nous parle de deux disciples qui ont suivi Jésus après la déclaration de Jean-Baptiste. Un, on donne le nom, André, l'autre, on ne donne pas le nom. On pense que c'est Jean, Jean qui écrit l'évangile de Jean, parce que Jean n'aime pas trop donner son nom. Alors il dit un autre disciple, mais on pense vraiment que c'est Jean. Parfois il dit le disciple que Jésus aimait, en toute modestie, pour se désigner Jean. Et puis on parle pas des sept autres justement dans l'évangile de Jean, mais Matthieu, Marc, Luc nous parlent des sept autres disciples que vous connaissez tous. Cette semaine, j'ai dans mon lit le soir, j'essayais de me rappeler les 12 disciples. Impossible d'arriver à 12. 10, 11, mais jamais 12. Je vous conseille ce petit truc pour vous endormir le soir si vous avez des insomnies. C'est pas si facile de trouver les 12 disciples. Et puis il y a autre chose, il y a les 12 tribus d'Israël aussi, c'est pas facile non plus, essayez voir. En tout cas, on ne connaît pas les critères de sélection pour les disciples rapprochés de Jésus. Ce qui est sûr, c'est que Jésus ne choisit pas parmi l'élite du pays. Il n'y a pas de concours d'entrée. Il a pris des Galiléens comme eux, des gens du Nord, des Ch'tis de l'époque. Il y aurait quand même parmi eux un Judéen. C'est Judas l'Iscariote. Question sélection, on n'est pas dans la Star Academy. On est dans le mystère du choix de Jésus. En tout cas, les critères humains ne semblent pas rentrer en jeu dans l'histoire. Alors, j'ai lu sur Internet cette illustration par rapport au choix des disciples. Et c'est une lettre écrite par un bureau de consultants en ressources humaines qui est adressé à Jésus, parce que Jésus leur a envoyé les dossiers des disciples potentiels. Et cette agence, le Jourdain Consultant, lui répond « Notre groupe de consultants estime que la plupart de vos candidats manquent d'expérience, de formation et de connaissances pratiques pour le type d'entreprise que vous souhaitez lancer. Ils n'ont aucun esprit d'équipe. Nous vous recommandons de continuer vos recherches pour trouver des personnes ayant de l'expérience dans le management et des compétences confirmées. Simon-Pierre est émotionnellement instable et sujet à des crises de colère. André n'a absolument aucune aptitude au leadership. Les deux frères Jacques et Jean, les fils de Zébédée, accordent la priorité à leur intérêt personnel au détriment de la loyauté à l'entreprise. Thomas fait preuve d'une attitude contestataire qui a tendance à saper le moral de ses collaborateurs. Nous pensons qu'il est de notre devoir de vous informer que Matthieu est sur la liste noire de la Chambre des jeunes entrepreneurs de Jérusalem. Jacques, le fils d'Alphée et Thaddée, ont clairement des tendances radicales et sont manifestement sujets à des comportements névrotiques. Voilà, à vue humaine, on n'aurait pas tablé sur ces disciples-là. Il n'a pas choisi dans le gratin, il n'a pas choisi les gens parfaits, il n'a pas choisi les meilleurs prédicateurs potentiels de l'époque ou les grands intellectuels de l'époque. Il n'a pas choisi le gratin et c'était un énorme encouragement pour nous. Il peut nous choisir parce qu'à part quelques-uns, nous ne sommes pas le gratin ici. Le gratin, il est un peu plus loin sur la croisette là-haut. Dieu, Jésus choisit des disciples humbles. Alors on revient au récit de Jean et j'aimerais relever trois phrases qui nous interpellent, je pense, sur la notion de disciple. La première vient de... Ah ouais, donc ça c'est... Je viens d'en parler. La première vient de Jésus qui, tout au début du récit, se sent être suivi par André et Jean, donc. Et il se retourne et il leur demande « Que cherchez-vous ?» Alors on peut prendre cette phrase de la manière la plus simple « Que cherchez-vous ? Pourquoi vous me suiviez ?» Et d'ailleurs, les disciples vont répondre quelque chose qui nous déçoit un petit peu. Ils vont répondre « On voudrait savoir où tu habites. » Un peu surprenant comme réponse, n'est-ce pas ? Jean le Baptiste leur a dit en désignant Jésus « Voici l'agneau de Dieu. » C'est pas rien. « Voici l'agneau de Dieu. » Autre part, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et quand l'agneau de Dieu leur demande ce qu'ils cherchent, ils répondent « On voudrait savoir où tu habites. » C'est un peu décevant. Les disciples ne sont pas très perspicaces. Ils disent bien « Rabbi », ce qui veut dire « maître ». Ça veut dire que ça démontre un certain intérêt, mais quand même, ça ne plane pas très haut. Mais Jésus, quand même, répond à leurs questions et il va leur dire « Venez et vous verrez ». Et il leur indique le lieu où il habite. Et c'est une phrase « Venez où vous voyez » qui implique déjà une certaine confiance, ou on pourrait même dire un commencement de foi. Les deux disciples sont obligés de venir et d'aller voir. Et c'est une phrase qui marque le début d'une relation de confiance entre Jésus et les disciples. Une réponse de Jésus qui a dû les interpeller, puisque les deux disciples de Jean-Baptiste sont devenus les disciples de Jésus. Au verset 39, ils dirent « Ils demeurèrent avec lui ce jour-là et les jours qui suivent ». André et Jean sont devenus, ils sont venus, ils ont vu, ils ont suivi. Mais il y a un autre sens, certainement, dans cette question que Jésus pose aux disciples. Que cherchez-vous ? Jean, l'auteur de l'Évangile, il s'adresse aussi à ses lecteurs. L'Évangile a été écrit un peu plus tard que la vie de Jésus. Et il s'adresse à des lecteurs. Et il pratique les deux niveaux de signification, si bien que le « cherchez-vous » devient pour celui qui lit ce récit, hein, « Que cherchez-vous ? » Dans la vie, que cherches-tu de la vie ? C'est comme si Jésus se retournait vers nous ou se retournait vers toi ce matin et nous demandait d'articuler, de mettre des mots sur ce que nous attendons de la vie. Et ça, c'est une question qui nous prend au cœur, n'est-ce pas ? Qu'attends-tu de la vie ? Qu'est-ce que j'attends de la vie ? Et on aurait peut-être du mal à répondre à cette question. Peut-être on donnerait une réponse un peu bête, comme les apprentis disciples, oh, « J'attends de voir la suite. » Peut-être une réponse embarrassée, ben, « En fait, j'attends pas grand-chose de la vie. » Ou « J'en attendais beaucoup et je m'aperçois que je n'en attends plus beaucoup, alors je me retire un peu dans ma coquille, comme l'escargot. C'est là que je demeure dans ma vie, en attendant qu'elle passe. » Qu'attendons-nous de la vie ? Qu'elle soit sans relief, sans risque, avec beaucoup d'ennuis, ou une vie qui a du sens, une vie où l'on défend une cause qui mérite qu'on y consacre justement sa vie, une vie où on est là pile poil où on devait être, une vie qui aurait du sens parce qu'elle serait à la suite de quelqu'un qui a les paroles de la vie éternelle. Un peu plus loin, dans Jean 6, il y a des disciples qui commencent à abandonner Jésus, parce qu'un disciple peut abandonner. Et Jésus demande à ses 12, « Et vous, ne voulez-vous pas faire comme eux ?» Et il y a Pierre, comme d'habitude, l'impulsif, le rapide, qui répond, « Mais Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Moi, quand je me suis converti, quand je suis devenu disciple, vers l'âge de 16 ans, c'était un peu le même raisonnement que Pierre. J'ai fait de la résistance pour la conversion au groupe de jeunes là, pendant 2-3 ans. Et puis après, à un moment, je me suis dit, mais vers qui d'autre je peux aller ? Sinon Jésus-Christ, qui répond aux questions de ma vie. J'étais un adolescent, vers 14 ans, mon grand-père est mort, et depuis lors, j'avais très peur de la mort et de l'absurdité de la vie aussi. Je me posais beaucoup de questions et j'avais peur aussi. Et Jésus est venu répondre à mes questions, répondre à mes peurs. Vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et toi, qu'attends-tu de la vie? Nous dit Jésus en se retournant vers nous. Et puis, une deuxième phrase que Jésus c'est une phrase bien connue quand Jésus choisit ses disciples. Il le dit à Philippe cette fois, il dit « Suis-moi ». Et il va le dire à un certain nombre de ses disciples, à Matthieu, le péager, le publicain qui est derrière sa table de péage, qui lui dit « Toi, viens et suis-moi ». À Pierre et André en train de réparer leur filet. « Laissez donc votre filet et venez et je vous ferai pêcheur d'hommes », dit-il à ces deux pêcheurs de poissons. Et à celui anonyme qui voulait ensevelir son père d'abord avant de suivre Jésus. Et Jésus lui répondra « Laisse les morts ensevelir les morts, toi, suis-moi. » Et au jeune homme riche qui veut avoir la vie éternelle et qui s'adresse à Jésus, et Jésus lui répond « Va avant tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et toi, viens et suis-moi. » Et le jeune homme riche n'y va pas et s'en alla tout triste. Alors, comme la première phrase, on pourrait lire ce verbe à deux niveaux. Au niveau le plus neutre, il s'agit de suivre Jésus dans ses déplacements physiques. Mais c'est vrai pour les disciples de la première heure, mais le verbe « suivre » est rarement utilisé dans ce sens neutre. Il s'agit le plus souvent dans l'évangile de Jean de suivre en tant que disciple. En tant que disciple. Et le verbe « suivre » est vraiment le verbe qui caractérise le disciple. Que fait un disciple? Il suit. Et le mot revient plus de 70 fois dans les évangiles. Et en grec, le verbe « suivre » a donné en français le substantif, le mot « acolyte ». Acolyte, l'acolyte, c'est celui qui est toujours avec, toujours à côté, un petit peu péjoratif. Il est venu avec ses acolytes, mais il est toujours là. Il est toujours, il emprunte le même chemin, la même route, il marche sur les mêmes traces. Et suivre Jésus comme un disciple, ce n'est pas marcher à distance respectueuse, mais c'est devenir un proche. C'est rentrer dans une communion de vie avec le Maître. C'est entretenir une relation personnelle avec lui. Et quand Jésus nous dit « suis-moi », ce n'est pas anodin, c'est un changement radical de la vie qui commence. Et on ne sait pas si les premiers disciples se rendaient vraiment compte de ce que ce verbe signifiait, mais nous, on sait que quand Jésus nous appelle à le suivre, et il le fait, ce n'est pas pour baguenauder dans les pâturages, comme la publicité dans les années 70 pour Belle des Champs, baguenauder dans les pâturages, mais c'est vraiment pour le suivre pas à pas, pour être un disciple dans la proximité du Maître. Jésus dira, après avoir délivré la femme adultère et avant de guérir l'aveugle, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et on voit bien ici qu'il ne s'agit pas de le suivre physiquement, mais de marcher dans sa lumière, dans son amour, dans son pardon, dans sa grâce, c'est-à-dire son amour immérité, dans la liberté qu'il nous donne, dans l'espérance qu'il nous donne. Suivre Jésus, c'est suivre celui qui est mort par amour sur une croix pour toi et pour moi, pour me délivrer une fois pour toutes de ce mal qui me colle, qui te colle à la peau. C'est suivre ce Jésus-Christ ressuscité qui m'offre par cette résurrection une espérance éternelle pour ma propre résurrection. Ouais, suivre Jésus, ce n'est pas rien. Qui ne voudrait pas suivre Jésus et marcher dans la lumière? Et la troisième phrase, elle se trouve dans le chapitre 15 que nous avons lu au début, mais aussi dans le chapitre 20 avec l'histoire de Nathanaël, je m'explique. Dans Jean 15, Jésus va dire à ses disciples, après leur avoir parlé du privilège d'être disciples, il va leur dire « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi ». C'est moi, Jésus, qui vous ai choisi. Et Pierre et André, et Jacques et Jean, auraient pu répondre, objection, votre honneur. Objection, Rabbi. On a quand même décidé de suivre. On a abandonné une entreprise florissante de poissons plus ou moins frais. Matthieu, le péager, aurait pu dire « Objection, Jésus, moi j'ai quitté un bon chiffre d'affaires, péager, c'est moi qui fixais les impôts, et je donnais aux Romains ce qu'ils demandaient, le reste c'était pour moi. Non, non, c'était une bonne affaire, j'ai décidé de te suivre. » Et Jésus leur dit à Matthieu, à Jacques et Jean, à André et Pierre, « Que nenni, c'est moi qui vous ai choisi. » Et Nathanaël aurait pu dire, aurait été d'accord avec Jésus, parce que c'est ça qui l'a le plus impressionné dans ce petit dialogue qu'il a eu avec Jésus. Quand Jésus lui a dit, « Avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Et c'est ça qui fait que Nathanaël, à un moment, va dire, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le roi d'Israël. » Et quand Jésus lui dit, « Quand tu étais encore sous le figuier, je t'ai vu. » Autrement dit, quand tu étais sous le figuier, avant même que Philippe ne te parle, « Je t'ai vu, je te connaissais, je t'avais choisi. » C'est choisi. C'est Jésus qui choisit ses disciples, et non le contraire. Et Jésus, en choisissant ses disciples, marque vraiment la différence avec ce qui se faisait à l'époque. À l'époque, comme aujourd'hui, c'était les disciples qui choisissaient leur maître pour le suivre et pour peut-être passer à un autre. On a le témoignage d'un historien du 1er siècle qui s'appelait Flavius Joseph, avec un E à Joseph, et qui en 4 ans, a fréquenté 3 écoles rabbiniques, a suivi un maître essénien, a suivi un maître pharisien et a suivi un ermite nommé Bannus. En 4 ans, tout ça. On choisissait ses maîtres, on choisissait ses écoles de philosophie ou de religieuse. Et à l'époque, et aujourd'hui encore, on retrouve cette espèce de consommation du spirituel, un peu de bouddhisme, un peu de développement de soi, etc. Mais Jésus ne se choisit pas au supermarché du spirituel. Il nous dit, c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous choisis, parce que Jésus n'est pas un maître comme les autres, il choisit ses disciples, il nous choisit aussi, et je pense pouvoir dire qu'il nous choisit tous. Peut-être que Calvin ne serait pas d'accord avec moi, mais il nous choisit tous, il nous choisit aussi pour être ses disciples, il nous appelle à l'être quand nous étions encore sous le figuier à tapoter sur notre portable. Il nous avait vus, il nous avait connus, il nous avait aimés, il nous connaissait déjà. Alors, c'est évident que quand on dit cela, quand je dis cela, je vous fais rentrer avec moi dans ce mystère du choix premier de Dieu. Et on pourrait donner des noms à cela, des noms un peu théologiquement, un peu forts, lourds. Le mot d'élection, le mot de préconnaissance ou de préscience. Et la Bible utilise ces mots pour parler du choix des enfants de Dieu, comme pour les chrétiens qui sont déjà dans la ville d'Éphèse. Et je vous lis ce verset, qui ont été choisis avant la création du monde, dit Paul. Avant même que les figuiers existent, ça c'est moi qui le dis, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Mais moi je dis, c'est un truc de ouf ça, comme on dit aujourd'hui. C'est un truc de fou, cette préscience, ce choix premier, cet amour en premier, choisi d'avance, décidé d'avance. Dieu choisit ses enfants, Dieu choisit ses disciples. Et on pourrait revenir au premier disciple et on pourrait se poser la question, pouvait-il refuser de le suivre? Théoriquement, oui. Et même pratiquement, oui, parce que certains l'ont fait. Mais même ceux qui ont suivi ont dû prendre la décision de le faire. Ils abandonnèrent leur filet, ils laissèrent leur père Zébédée dans la marque. Malgré le choix préalable de Dieu, il y a pour l'homme malgré tout, une décision à prendre. C'est tout le mystère lumineux de ce plan de Dieu. Il y a une réponse à donner, certainement, mais il y a surtout ce choix de Jésus préalable qui nous surprend, qui nous impressionne, qui nous attire et en même temps qui nous donne confiance. Il m'a choisi, moi, alors que je ne le méritais pas spécialement. Il m'a choisi, moi. Pourquoi je ne le sais pas? C'est un appel de la grâce. C'est un appel qui nous tombe dessus alors que je ne le mérite pas. Et ce choix de Jésus résonne comme un appel. Toi, suis-moi. On peut toujours le refuser, mais quelque part, ça ne se refuse pas. Quelle réponse à donner au choix de Jésus, à cet appel et à ce choix de Jésus? Eh bien, j'aimerais simplement dire qu'il nous faut nous laisser choisir. Se laisser choisir par Jésus, ne pas opposer de résistance à l'appel, comme cet jeune homme riche qui s'en alla tout triste. Se laisser choisir par Jésus, alors que nous sommes encore sous le figuier, se laisser choisir pour être un disciple qui suit à la trace, qui le suit à la trace. Nous avons été choisis pour être ses disciples. Allons-nous nous laisser choisir? Vas-tu te laisser choisir? Toi qui n'es pas encore chrétien peut-être ce matin, toi qui viens à l'église depuis un petit temps, ou peut-être longtemps même déjà, mais qui n'a jamais fait le pas. Peut-être que pour la première fois, Jésus te dit, toi, suis-moi. Pas ton voisin, pas tes parents, pas ton frère, pas ta sœur. Toi, suis-moi. Parce que j'ai les paroles de la vie éternelle. Il y aura encore des hauts et des bas, mais je te promets mon amour fidèle et mon aide dans les épreuves. Oui, Jésus s'adresse à toi ce matin, si tu n'es pas encore à lui. Toi, suis-moi. Et puis je m'adresse à tous ceux qui sont déjà chrétiens depuis un petit peu de temps ou depuis plus longtemps. Toi qui as peut-être pris des routes un peu secondaires, qui as pris des distances par rapport à la foi, par rapport à la prière, par rapport à la lecture de la Bible, par rapport à l'Église, le rassemblement des disciples, qui a pris un peu de distance dans sa vie de disciple. Et ça m'est arrivé dans ma vie, ça arrive à tout le monde. On ne sait pas pourquoi, il y a de la distance, on prend des routes parallèles, et peut-être qu'il te faut aussi revenir à la suite de Christ. Toi, suis-moi, retrouve le chemin de la lumière, retrouve le chemin à la suite de Christ. Être ou ne pas être un disciple, telle est la question pour toi ce matin. Amen.